municipal 2026 en Dordogne. Place à l'entretien du jour.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happy Radio. Dans le cadre de notre émission spéciale consacrée au municipal à Bergerac aujourd'hui, on reçoit Jonathan Priolo, maire sortant et candidat à sa succession. Le principe est simple, une discussion thème par thème sur des sujets très concrets du quotidien. Bonjour Jonathan Priolo.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs d'Happy Radio.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je commence par le thème le plus gros, on va dire. Commençons directement, le dossier déchets crispe beaucoup de monde en ce moment. Vous avez souvent expliqué que la ville n'a pas la main sur tout, puisque c'est un sujet géré à l'échelle intercommunale syndicale. Très concrètement, quel est le vrai pouvoir d'un maire de Bergerac dans ce système et qu'est-ce que vous obtenez différemment si vous êtes réélu en fait ?
D'accord. Donc d'abord, sur la gestion des déchets, c'est vrai que c'est une compétence intercommunale elle-même déléguée à un syndicat qui s'appelle le SMD3. Ce qui est important d'abord de rappeler, c'est qu'on ne peut pas sortir du SMD3. Et ça, c'est la loi qui le dit, puisque ce sont des compétences à l'origine communale, devenues intercommunales, puis à un syndicat. Donc à partir du moment où on n'est pas d'accord avec la gestion actuelle du SMD3 et qu'on ne peut pas en sortir, alors il faut y rentrer. Et donc y rentrer, c'est à travers nos représentants de l'agglomération SMD3, faire en sorte qu'il y ait des élus qui aient envie de travailler avec bienveillance sur la gestion des déchets, mais également de travailler avec les associations d'usagers, celles et ceux qui sont au quotidien, au plus près de celles et ceux qui ont accès à ces lieux de déchets. D'abord, sur le mode de ramassage, on a lutté, on s'est battu pour maintenir le mode du porte-à-porte à Bergerac. Quand le SMD3 a souhaité mettre le point d'apport volontaire sur tout le département, on avait donné dès le début notre non-acceptation d'un tel mode. Et donc, on a organisé une grande réunion publique à Bergerac où tous les habitants ont pu venir s'exprimer. On a défini ensemble un périmètre, le périmètre du porte-à-porte qui a été maintenu sur Bergerac dans les quartiers et puis le périmètre cœur de ville dans lequel il y avait déjà des points de regroupement et sur lequel il y a eu un point d'apport volontaire. Le deuxième axe, c'est plutôt son financement, puisque le département, le SMD3, a décidé de mettre en place la redevance incitative, qui n'a d'incitative que le nom, puisque c'est pas parce que vous mettez moins de déchets que vous payez moins. Et là, pour moi, il y a une vraie problématique également de solidarité envers l'ensemble des habitants, puisque ceux qui ont le plus de revenus, qui ont des grandes maisons, payent moins s'ils sont moins nombreux dans le foyer que des personnes, par exemple, en logement social, dans de petits appartements en cœur de ville. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ce qu'on souhaite mettre en œuvre avec mon équipe, d'abord, c'est de pouvoir aller dans la gestion du SMD3, faire en sorte qu'il y ait des élus à nos côtés qui aillent gérer le SMD3 d'une manière différente à aujourd'hui. Deuxièmement, de maintenir le porte-à-porte tel qu'on l'a fait sur l'ensemble des quartiers de Bergerac. Et ensuite, de revoir son mode de financement, mettre peut-être en place la TOMI, qui est une partie en fonction de la valeur locative des biens immobiliers, et une autre partie en fonction vraiment des déchets qui sont mis dans les containers ou dans les points d'apport volontaire. Donc il y a vraiment tout un enjeu autour de la gestion des déchets. Et puis un dernier point où il faudra qu'on réfléchisse, qu'on puisse débattre avec l'ensemble des maires. Et donc je prends en exemple l'Union des maires départementales de la Dordogne, avec laquelle on devra discuter d'un incinérateur, une unité de valorisation énergétique. On est dans un monde aujourd'hui qui change. On doit être, et on le voit avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation du prix du gaz. Et donc, comment on peut devenir indépendant sur l'énergie en France, la production énergétique française. Et donc, à travers un incinérateur, une unité de valorisation énergétique, c'est l'occasion pour nous de pouvoir aussi produire de l'énergie à travers nos propres déchets. Alors, faut-il le faire sur le département de la Dordogne ? Faut-il s'allier avec un autre département et faire en sorte que nos déchets aillent dans l'incinérateur sur un département limitrophe? Tout ça, ça doit être débattu avec l'ensemble des maires et surtout qu'on ait tous le même niveau d'information sur les déchets qui sont enfouis aujourd'hui et qu'on ne peut pas laisser à nos enfants, on ne peut pas laisser des déchets sous terre pour nos enfants.
Ça, c'est dans combien de temps pour vous? On peut avoir une échelle de temps, par exemple, dans les 100 premiers jours, quelles seraient vos 2-3 actions? Est-ce que c'est ça, par exemple, qu'on ferait?
Alors déjà, très rapidement, il y aura l'élection dans les intercommunalités et forcément, il y aura ensuite les représentants de l'intercommunalité au SMD3. Donc, dans les semaines qui suivent l'élection municipale, il y aura forcément déjà l'élection pour aller être représenté au SMD3. Là, il faut qu'on soit très explicatif auprès de l'ensemble des maires de la Dordogne, de leur dire, voilà, si on va au SMD3 ensemble, on y va, dans quel but, la gestion des déchets. Donc ça, c'est très rapide après les élections. Après, il y aura, dès le mois de septembre, avec l'Union des maires, forcément les élections sénatoriales. Donc après les élections sénatoriales de septembre, on pourra organiser des grands débats sur la gestion des déchets et l'incinérateur en Dordogne. Donc c'est-à-dire que sur l'année 2026, On peut très rapidement être aux manettes du SMD3, mais également être en avance sur la réflexion sur une unité de valorisation énergétique.
Donc après septembre 2026.
Exactement.
J'aimerais maintenant qu'on parle de la vie associative. On sent à Bergerac un tissu associatif qui fatigue et qui dit parfois ne pas se sentir écouté. Quel bilan vous faites de la relation ville-association sur ce mandat et qu'est-ce que vous changez pour retisser de la confiance ?
Alors d'abord, la confiance est liée, on la voit très régulièrement quand on est dans les assemblées générales ou quand on est sur le terrain. Vous dire aussi qu'il a fallu réorganiser le patrimoine immobilier de la ville de Bergerac. On avait, quand on est arrivé, des associations qui étaient dans des locaux insalubres. Et donc, on a préféré construire des locaux tout neufs avec les nouvelles technologies, les déménager dans ces nouveaux lieux de façon à pouvoir travailler ensemble et qu'ils puissent faire des activités, des actions ensemble. On le voit, je vais prendre quelques exemples. Quand l'école de la deuxième chance a été déménagée, on l'a mis dans les mêmes locaux que le CFA de Bergerac. On a également le Cantou qui a des activités pour les retraités. On a travaillé également avec Bergerac Accueil qui a également des activités pour les retraités. Donc faire en sorte que des associations qui ont des objets similaires puissent travailler aussi ensemble. Et puis ça a été pour nous de faire des nouveaux lieux associatifs. On a construit la maison des associations Joséphine Baker, qui a permis d'avoir des lieux sur le passage de la navette Cœur de Ville, en plein cœur de Bergerac, mais avec des locaux tout neufs. On a fait un foyer associatif Charpac dans le quartier nord de Bergerac. On a fait une salle d'activité sur le quartier sud, la salle d'activité Cyrano. Donc on a mis en œuvre tout ce que l'on pouvait pour accompagner les associations en termes de patrimoine immobilier et de locaux pour qu'elles puissent faire leurs activités. Et quand on va sur les associations sportives, on avait des lieux sportifs vieillissants et on a rénové ces lieux sportifs. Il y avait besoin de vestiaires pour la CAT, on a fait des vestiaires pour la CAT, plus de 20 ans que c'était attendu. Un stade d'athlétisme, c'était attendu aussi depuis plus de 20 ans, on l'a réalisé sur le mandat. Et puis on a rénové, on a fait de l'ancienne piscine un couvert de pétanque, on a fait de l'ancienne salle Louis-de-Luc un dojo de judo, on a mis du sport en proximité dans les quartiers, quand on a rénové le terrain synthétique de foot, ou encore quand on a fait la salle de boxe en proximité dans le quartier de Naillac. Donc on a fait en sorte que la vie associative, la vie sportive, puisse être mieux organisé en termes de locaux, mais aussi avec des locaux plus à même de recevoir l'ensemble des activités de celles-ci. Et puis l'accompagnement, il se fait au quotidien. On a un service vie associative et sport qui accompagne notre tissu associatif local sur la partie administrative, sur la partie technique, sur l'organisation d'événements. Tout est mis en place pour les accompagner le plus possible. Et puis enfin, ce sont les votes des subventions. Puisque chaque année, ce sont 1 million d'euros de subventions versées à la vie associative locale, dont 500 000, la moitié pour la vie sportive. Juste à titre de comparaison, on donne deux fois plus de subventions à Bergerac que n'en donne Périgueux à son tissu associatif local. Donc on est très en avance. Et puis ensuite, et enfin, c'est la relation avec les associations où chaque année, je reçois sur leur lieu chacune des associations et c'est l'occasion pour nous de faire un point sur leur activité, sur leurs actions, sur leurs besoins et sur l'amélioration des conditions d'accueil. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail qui a été mené. Et puis à l'avenir, c'est le souhait d'avoir une nouvelle maison des associations et des syndicats. On a l'espace Jules Ferry qui aujourd'hui n'est pas aux normes pour les personnes à mobilité réduite pour l'accès aux étages. On a une maison des syndicats qui est vieillissante, qui est dans son jus d'il y a très longtemps. Et donc, c'est comment on fait en sorte de repenser, de créer à nouveau une maison des associations et des syndicats.
On parlait d'un budget associatif d'un million. Quand une association vous dit on avance pour le mois, par exemple la SPA actuellement, qui est dans des difficultés, une situation très fragile, vous faites quoi concrètement pour sécuriser ?
Alors, la SPA, c'est une particularité quand même au niveau local, puisqu'elle a deux activités. Elle a une activité fourrière animale, et donc là, il y a un contrat qui lie la ville à la fourrière, et là, on verse à l'euro le coût pour la SPA. Donc là, elle est accompagnée sur cette compétence-là de fourrière animale. Et ensuite, il y a l'autre compétence qui est de la protection animale, et qui est là, qui vient davantage des dons des personnes qui viennent sur la SPA. Donc nous, on accompagne la SPA sur la fourrière, et on l'accompagne aussi puisqu'on a voté une subvention exceptionnelle en 2025 de 5000 euros pour accompagner la SPA dans son fonctionnement. Donc tout est fait par la ville pour accompagner les associations locales.
J'aimerais qu'on parle à présent, sans transition, de la culture. À Bergerac, il y a une attente forte autour de la vie culturelle, et les musiques actuelles qui font partie de l'identité locale. Il y a le Roxane évidemment, mais il y a la scène locale. Quel est votre cap ? Comment vous soutenez une salle, une scène locale, et comment vous évitez que ça devienne sur le fil en permanence ?
J'ai évoqué deux axes. Il y a un premier axe qui est l'accès à la culture pour tous. Sur ce mandat, en 6 ans, nous avons livré 2 lieux culturels. On a livré le pôle culturel d'Ordona et on a livré le Centre d'art de la photographie. Ces deux espaces entièrement gratuits pour tous, on y fait de la médiation culturelle. Le pôle culturel d'Ordonna, ce sont 30 000 entrées la première année, dont 3 000 jeunes scolaires. Ce qui veut dire qu'on a donné l'accès à la culture pour tous sur Bergerac. Et ça, c'est déjà un point très important et sur lequel on peut appuyer. À l'avenir, il faut qu'on travaille sur le musée du tabac, qui est labellisé musée de France et qui mérite une rénovation. Il a été fait dans les années 80 et maintenant, il faut qu'on revoie le musée du tabac. Ça, c'est sur la compétence de la ville de Bergerac. En ce qui concerne le Roxane, je rappelle que c'est une compétence qui a été déléguée à l'agglomération. Dans ce cadre-là, il y a des fonds qui sont donnés par la ville à l'agglomération pour le gérer. Et ensuite, il y a une subvention qui est donnée à Overlook pour gérer l'outil du Roxane. Et donc, c'est cette relation-là qu'il faut continuer à avoir entre l'agglomération de Bergerac et l'association Overlook qui gère le Roxane pour savoir quelles sont les attentes de l'agglomération. Et là, c'est aux élus de l'agglomération de se positionner. En ce qui nous concerne, on souhaite continuer à accompagner le Roxane dans son développement, que ce soit la Rock School, que ce soit les concerts, les événements organisés à l'intérieur du Roxane. Et donc, on met tout en œuvre pour accompagner le Roxane. D'ailleurs, quand il y a des événements, on fait des arrêtés de gratuité sur l'arrière, sur la place Gainsbourg qui nous appartient. On fait tout ce qui est en sorte de communiquer avec le Roxane sur ces événements. Donc, tout est fait pour l'accompagner sur l'ensemble de sa programmation.
Vous parlez de culture pour tous. Qu'est-ce que c'est la culture pour vous ?
Alors nous, la culture, on va être très clair, on essaie d'avoir la culture la plus éclectique possible et la plus ouverte possible. Et donc on le voit à travers les estivales qu'on organise chaque été, où vous avez sur scène et sur le port des musiques totalement différentes, de façon à ce que chacun puisse se sentir représenté et puisse venir voir l'ensemble des scènes. Et puis la culture, c'est aussi l'accès à notre musée, le pôle culturel d'Ordonna, sur lequel il y a certes l'exposition permanente qui est notre centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, mais on a voulu également faire en rez-de-chaussée une salle d'exposition temporaire, ce qui permet d'avoir 4 fois dans l'année des expositions différentes et qui permet d'avoir du public différent. Il faut, et c'est ça la culture pour tous et partout, de faire en sorte que chaque public qui a des envies différentes puisse à un moment donné dans l'année avoir un accès à quelque chose qu'il apprécie, mais également découvrir d'autres choses, des choses sur lesquelles il n'aurait pas été naturellement ou sur lesquelles il ne regarde pas aujourd'hui, mais qu'il puisse avoir un œil dessus.
J'aimerais qu'on parle, pour finir, des finances et de vos priorités. Justement, si vous êtes réélu, quelles seraient vos deux priorités budgétaires ?
Alors d'abord, je rappelle qu'on n'a pas augmenté la fiscalité sur le mandat 2020-2026. On l'a même baissé. On a baissé les taux de fiscalité sur la ville en 2022. Et il est évident que sur le prochain mandat, de 2026 à 2032, nous n'augmenterons pas les taux de fiscalité sur la ville de façon à laisser du pouvoir d'achat à l'ensemble des Bergeracois. Deuxièmement, c'est de continuer la bonne gestion de la ville telle qu'on a aujourd'hui. On a eu sur 5 années consécutives des épargnes nettes positives. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça n'était jamais arrivé par le passé, on est en capacité, avec notre budget de fonctionnement et son résultat, de payer nos emprunts. C'est comme si vous, en tant que particulier, une fois avoir payé toutes vos charges et avoir votre salaire en face, vous n'étiez pas en capacité de payer vos emprunts. Ça bloquerait quelque part. Et donc nous, on a décidé de bien gérer la collectivité, des épargnes nettes positives, ce qui nous a permis d'investir. Sur le mandat précédent, on avait investi 25 millions d'euros. On en a investi le double, 50 millions d'euros. On a désendetté la ville de Bergerac de près de 5 millions d'euros sur le mandat, ce qui nous permet de payer moins d'intérêts de la dette aux banques. Et donc, c'est cette bonne gestion qu'il faut conserver à la ville de Bergerac.
Est-ce que vous allez investir, c'est une grande question, pour tous les candidats, dans des caméras ?
Alors, la sécurité est un enjeu important sur la ville, comme la gestion des déchets, comme la voirie et comme d'autres enjeux qui nous remontent du terrain. Il est évident que depuis 2020, on a mis en place des choses importantes sur la sécurité. On a créé une brigade cynophile, on a créé une brigade motorisée, on a armé nos policiers municipaux de semi-automatiques, on les a équipés également de caméras piétons, de véhicules plus performants. Donc on a mis tout en œuvre pour accompagner notre police municipale. On a également fait en sorte que la police municipale et nationale travaillent ensemble, main dans la main, et avec le parquet, avec même la procureure. Et donc tout ça, ça a bien fonctionné. Et les résultats sont là, puisqu'on a baissé, la ville de Bergerac a une délinquance qui a baissé sur l'année 2024 de 10% et qui a à nouveau baissé sur l'année 2025 de 2%. Cependant, la délinquance évolue et on le voit à travers le narcotrafic. Et donc, on a décidé sur le prochain mandat de mettre en place les assises de la sécurité et de la cybersécurité. Et ces assises vont permettre de faire en sorte d'organiser des réunions avec l'ensemble des acteurs du monde de la justice, du monde de la police et les Bergeracois pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Et en fonction de ce niveau d'information, des attentes d'hébergeur à quoi, de ce sentiment d'insécurité qu'il faut arriver à faire baisser sur la ville, on verra ce que préconiseront l'ensemble des professionnels et des habitants. Et s'ils préconisent plus de police municipale, on y travaillera. S'ils préconisent de la vidéoprotection, on y réfléchira. Donc toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose, mais qu'on ait tous le même niveau d'information.
Donc dans un premier temps, pas de caméra directement.
Dans un premier temps, les assises de la sécurité, de la cybersécurité qui ont lieu sur toute l'année 2027, avec le Conseil local de prévention de la délinquance. On demandera des financements à Madame la préfète dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour financer l'étude sécuritaire sur la ville de Bergerac. Et en fonction de ce qu'il en ressortira, on verra ensuite pour l'installation ou de caméras sur la ville à des lieux bien précis en fonction des besoins, mais également ce qui a bien marché pendant les 6 années qui viennent de précéder, c'est-à-dire de la police de proximité, de la police dans les quartiers, en centre-ville, au contact de la population.
Merci beaucoup, Jonathan Priolo, d'être venu répondre à nos questions thème par thème. On rappelle que dans cette émission spéciale consacrée au municipal de Bergerac, l'objectif est d'aider les auditeurs à comparer des priorités et des choix, et surtout une méthode. Merci encore d'avoir été avec nous.
Merci à toutes et à tous.
Municipal 2026 en Dordogne, à retrouver en podcast sur happyradio.fr.